Vous écoutez Radio Bonheur, il est 19h05, voici le magazine des déchaînés du football en direct sur Radio Bonheur, le magazine des déchaînés du football avec Pierre-Henri Dufay. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous.
Avec aussi Gaëtan Pinel, bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Dominique, bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Alors le héros Gaëtan Pinel. Hein.
Ah ouais, 2 victoires, ouais. 2 déplacements.
Moi, une sévère défaite.
Un joli week-end.
Je me remets en question depuis ce matin, là, c'est terrible.
Bon, le point rapidement sur le week-end, on le rappelle, belle victoire de Guingamp à l'extérieur, 2-0, une victoire à Nîmes en Ligue 2, en Ligue 1, des fortunes diverses, ça se passe bien, très bien pour Brest qui est allé s'imposer à Montpellier 2-1, et encore, la réduction du score pour Montpellier est arrivée dans les arrêts de jeu sur pénalty, une belle victoire des Brestois, en tout cas, qui sont en train d'assurer leur maintien, ça en prend le chemin. Par contre, pour Lorient, une défaite alors un peu prévisible, puisque c'était au Parc des Princes, une défaite assez sévère, somme toute 5-1. Hier soir, les Merlus toujours donc englués dans le bas du classement. Alors, c'est pas dramatique pour les Merlus, mais bon, ils ne sont qu'à un point de la 18e place. Ça reste très disputé, cette place de barragiste dans le bas du classement. Et malheureusement, les Merlus font partie des clubs toujours très menacés par cette 18e place. On commence par Brest, messieurs.
Ah oui.
Et Gaëtan, Brest qui a fait la belle affaire ce week-end. Pour son maintien.
Ouais, le très joli coup du Stade Brestois qui s'est imposé à Montpellier, là où c'est quand même difficile d'aller gagner, face à une équipe qui s'était imposée à Francis Leblé 4-0 hein, sur la phase aller, on s'en souvient, au mois de décembre. Et bien Brest a quelque part pris sa revanche au Stade de la Mosson, une victoire 2-1 avec tous les buts marqués en deuxième mi-temps. On écoute justement le résumé de ce Montpellier-Brest. Premier coup franc, c'est pour Odora, tête de Germain pour sortir le ballon, ça revient vers Christophe Ferrel, centre des Rels, tête de Lannes qui passe juste au-dessus du but. C'est Montpellier qui maîtrise le ballon, les tempos et ce long ballon vers Mabididi dans la surface de réparation. À côté Mabididi,
oh là là.
Il avait tenté de lober Marco Bizot qui était sorti avec ce ballon piqué, mais ça passe devant le but et ça arrive à l'opposer au deuxième poteau ensuite avant qu'Erel ne laisse sortir finalement en 6 mètres. Allez, peut-être celle-là, Paul Lannes, il va pouvoir centrer Lannes au deuxième poteau vers Fossurier, la tête, ce ballon qui revient sur Fossurier, la frappe contrée par Sacco. Oh, elle prenait le chemin du but, cette frappe de Fossurier, elle est contrée par Sacco. Alors comme Lannes était battu, quasi au sol dans ses 6 mètres. Devant lui, voilà, dans la course, Belkebla est servi et Del Castillo qui vient l'aider sur le côté droit. Del Castillo servi par Belkebla. Del Castillo qui va s'infiltrer dans la surface de réparation sur son pied gauche. Il y a Honora qui est là, le centre vers Satriano, contrôle, frappe et lutte. Satriano plein de lucarne, l'ouverture du score du Stade Brestois 29 à la 69e minute. Satriano vient inscrire son 4e but en Ligue 1, le tout après une remontée de balle des Tizèf depuis leur moitié de terrain par Belkebla, par Del Castillo, par Honora. Et à la conclusion, c'est Satriano qui vient marquer et ouvrir le score. Nouvelle balle pour les Montpellierains dans la surface. Mavididi qui ne peut pas frapper, voilà qui est fait. Sauvé dans les 6 mètres.
Oh là là,
sauvé
oh là
dans
là
les 6 mètres par Lilian Brassier. Oh, l'arrêt de Brassier, ou plutôt le ballon contré par le défenseur venu suppléer son gardien. Très gros coup de chaud dans la surface de réparation. Le ballon qui avait été dévié par Savanier également sur la frappe. Mavididi dans la surface de réparation, il va devoir en sortir, revenir avec son pied gauche pour centrer vers Valer. Germain, déviation de la tête, au ras du poteau d'un Marco Bizot battu sur cette situation, ça passe à côté du cadre. Ce corner, non, ce sera finalement dans la boîte pour Del Castillo. La tête de Chardonnay en retrait, Belkebla qui reprend ce ballon relâché par Omlin et finalement capté en deux temps.
Cet après-midi, pendant
la frappe de Noah, deuxième frappe et deuxième but. Franco Nora pour le deuxième but brestois, c'est le dixième cette saison pour Franco Nora avec ce ballon venu de la gauche. Il a d'abord buté sur Omlin avant de marquer sur un deuxième ballon. Franco Nora, ça fait 2-0 dans le dernier quart d'heure et Brest qui se rapproche plus que jamais du maintien en Ligue 1 grâce au dixième but cette saison de Franco Nora. Et Brest va sans doute maintenant s'imposer dans ce match. Ferry par-dessus pour aller chercher Liwayi, bousculé dans le dos et pénalty pour Montpellier. Pénalty pour Montpellier à la 92e minute. La faute de Lilian Brassier qui a fait un très bon match jusque-là et qui est averti donc à la 92e et qui offre un pénalty à Montpellier. Ah, ça vient un petit peu entacher la fin de match. Savagnier face au gardien du stade Brestois 29. L'arbitre vérifie que tout le monde, tous les autres joueurs soient bien à l'extérieur de la surface. TJ Savagnier face à Bizotte, pleine lucarne. Montpellier revient dans le match, dans le temps additionnel à la 94e minute de jeu. 2-1 désormais pour le stade brestois. C'est terminé ici à Montpellier, le stade brestois 40 ans plus tard gagne à Montpellier et surtout le stade brestois fait un très grand pas vers le maintien. 38 points pour les Tisef.
Ah ouais, 38 points au compteur pour les Tisef, ça leur donne une marge de sécurité importante sur le 18e. Hein. 11 points d'avance.
11 points, hein.
11 points d'avance avec cette 10e victoire pour les Brestois dans cette saison.
Dites-moi Gaëtan, est-ce que 38 points, c'est pas le total de l'année dernière?
Non, c'était 41, je crois. Parce que Nantes avait 40, Brest 41. Et Lorient 42, oui, je crois que c'était le classement. Donc bon, on n'est pas loin du total de l'année dernière. On devrait y arriver plus vite que l'année dernière aussi, grâce à cette victoire. Un peu surprise, hein, parce qu'il y avait eu la défaite à Angers avant la trêve internationale où les Tisef étaient passés à côté de leur match. Il y a ce déplacement qui paraît un petit peu épineux sur le papier à Montpellier. Puis finalement, bon, les Brestois sortent cette victoire de leur chapeau et s'imposent 2-1. On écoute tout de suite la réaction du deuxième buteur de l'après-midi, c'est Franck Honora.
Bon, on n'a pas eu énormément d'occasions, mais les quelques occasions qu'on a eues, on a été très efficaces, comme vous l'avez dit. Et puis même dans le jeu, on n'a pas fait que défendre, comme les matchs précédents. On a réussi à garder le ballon, à avoir la possession, à faire un peu tourner. Et puis on a bien réussi à bloquer Savagnier et Ferry, parce qu'ils aiment bien ressortir à 3 derrière. Donc ils essayaient de mettre des longs ballons devant, mais nos défenseurs et nos milieux étaient là, on était au second ballon. Donc c'est un match... on va dire pour moi dans l'ensemble qui est intéressant et il faut garder ça pour la suite. Donc pourquoi pas gagner encore quelques matchs et essayer de finir dans la première partie de tableau, ça serait cool.
L'efficacité brestoise mise en avant, ouais. Ça veut dire que la victoire n'est pas forcément logique, Gaëtan?
Si, parce que globalement, Brest n'a pas forcément été plus dominé que cela, sauf qu'il n'y a pas eu non plus énormément d'occasions, mais il n'en a pas eu non plus pour Montpellier énormément d'occasions. Il y en a une énorme en première mi-temps quand même pour Mavididi, puis il y a en seconde période un gros coup de chaud juste avant le deuxième but, où il y a une belle occasion de Germain, une autre de Mavididi, encore lui avec un sauvetage là sur la ligne de Lilian Brassier. Mais hormis ces 2-3 vagues-là, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour Montpellier. Mais comme Brest, on a eu assez peu aussi. Bon, ils ont été par contre plus efficaces avec ces deux buts marqués. À 10 minutes d'intervalle, hein, 69e et 79e pour le deuxième but. Le premier qui est venu notamment d'un excellent travail, hein, de Romain Del Castillo, qu'on a vu, Pierre, ces derniers temps en position de numéro 10 aussi, parce que Brest a un peu changé de système sur plusieurs matchs, défense à 5, défense à 4. Là on était à 4, mais quand ils étaient à 5 derrière, il y avait ce fameux numéro 10, le meneur de jeu qui revenait, et c'était Romain Del Castillo qui était là un peu moins en vue.
Oui, on se souvient notamment du dernier déplacement à Angers où Der Zakarian l'a sorti dès la mi-temps. Il avait fait les frais de sans doute la pire première période de la saison des Brestois, mais c'est vrai qu'il est... un peu, entre guillemets, trimballé à plusieurs postes. Ouais. On se souvient qu'à Reims, il fait une passe décisive délicieuse pour Satriano, déjà, sur le couloir droit. Alors, je vais attendre de savoir ce que dit Der Zakarian sur Del Castillo, ce qu'il nous en avait parlé à Reims. Je vais attendre de voir ce qu'il nous dit et puis je rebondirai peut-être après dessus.
Oui, en tout cas, c'est Romain Del Castillo qui a délivré une nouvelle passe décisive pour Martin Satriano. Tout est venu du côté droit. On écoute donc Der Zakarian sur l'apport de Romain Del Castillo.
C'est ce qu'on attend de lui. C'est un garçon qui est... C'est des joueurs techniquement qui sont capables d'orienter bien le jeu, que ce soit lui, que ce soit d'autres joueurs techniques. Et c'est ce qu'on attend de ces joueurs-là, soit qu'ils répondent présents à ce qu'on attend d'eux. Aujourd'hui, il a pas perdu beaucoup de ballons, il a eu pas mal de justesse dans ses choix. Sur le premier but qu'on marque, il met un bon centre pied droit, les gauchers, bien. Même si Martin le finit très très bien.
Ouais, pied droit alors qu'il est gaucher aussi. Romain Del Castillo, il a fait preuve d'adresse sur son mauvais pied.
Oui, il nous avait dit à Reims il y a un mois maintenant, peut-être un peu plus, un peu moins.
Ouais, un petit peu plus.
Une notion du temps maintenant, mais que c'était un profil assez étonnant sur un côté parce que c'était pas forcément un joueur rapide, oui. Mais il était capable de compenser par sa qualité de passe. On l'a vu à Reims, on l'a vu hier, Der Zakaria en parle. Avec cette passe du droit pour Satriano, voilà, c'est vrai que c'est un profil de joueur un peu étonnant parce que c'est pas maintenant on a l'habitude de voir des dragsters sur les côtés dévaler à 100 à l'heure. Non, lui c'est un autre profil. Il est dans une nouvelle appréhension aussi, une nouvelle phase de sa saison après avoir quasiment loupé les 6 premiers mois sur blessure. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant et ça fait partie, on en a déjà parlé lors de magazine du lundi, de ces profils très différents qui composent le puzzle de l'attaque brestoise.
Oui, un puzzle qui était un peu différent d'ailleurs hier parce que c'était un retour donc au 4-4-2 avec Julien Fossurier, titulaire en tant que milieu droit. C'était une première pour lui cette saison.
Il joue quand même mieux en 4-4-2 les Brestois.
Ah oui, oui, c'est quand même beaucoup mieux hein, que la défense à 5 qui, bon, avait été la bonne idée, on va dire, sur le match à Lens, mais sur le coup d'un soir. Pas pour durer dans le temps. On voit que c'est beaucoup plus difficile d'animer l'équipe lorsqu'elle est à 5 derrière que dans ce 4-4-2 qui semble beaucoup mieux convenir au Tizèf, à détonnant Brestois d'ailleurs, parce que on le disait, ils ont perdu à Angers alors qu'Angers restait sur une série catastrophique. On se disait que c'était peut-être le coup, le moment pour Brest de se rapprocher du maintien là-bas. Ça n'a pas été le cas. Mais en revanche, ils ont été gagnés à Lens, là où on ne les attendait pas. À Montpellier, on ne les attendait pas non plus.
On a l'impression qu'ils choisissent leur match.
Ouais, un petit peu. Hein.
Der Zakarian s'était montré à Angers après le dernier déplacement, complètement impuissant. Il disait, je sais pas, je les comprends pas. des fois, ils répondent pas. Et c'est pour ça qu'il y avait un petit peu d'inquiétude quand même. Ouais. On l'a senti de la part des suiveurs brestois avant ce déplacement Montpellier. Et puis bon, non, finalement, voilà, ils ont été au rendez-vous comme ils l'ont été quelques fois cette saison. Alors qu'est-ce qu'ils nous serviront sur le prochain match, on verra. Mais c'est vrai qu'elle est rassurante cette victoire.
Oui, en tout cas Brest est imprévisible. Est-ce que Haris Belkebla a les réponses à cela? Écoutez le milieu de terrain.
J'ai pas forcément d'explication. C'est peut-être, je pense qu'à Angers, comme je l'ai dit, on a totalement raté notre première mi-temps et notre entame de match. Après, au niveau de la confiance, peut-être que dans le match, on a fait un peu les cerveaux à l'envers. Du coup, là aujourd'hui, on a plutôt fait une bonne entame de match. Comme j'ai dit, on a retrouvé cette solidité. Et puis, voilà, à nous de mettre toujours la même envie et d'aller chercher le plus haut possible.
Ouais, le plus haut possible. Et d'ailleurs, dans les réactions d'après-match, on y reviendra notamment dans une des rubriques cette semaine aussi. Mais il n'y avait plus trop le mot maintien, mais plutôt top 10 qui revenait dans les bouches des Brestois, de Belkebla, d'Honora, de Der Zakarian aussi. Ça montre des ambitions, ça montre aussi que, bon, on considère que le maintien maintenant, il est acquis. Hop là, votre micro.
Hop là, le micro. Il me semble aussi que depuis le début de saison, Der Zakarian parle du top 10.
Oui, il en avait parlé en tout début de saison. Alors, après la série catastrophique de 11 matchs sans victoire, il en parlait forcément moins.
Le début de saison n'avait pas été propice à parler très fréquemment du top 10.
Ça n'aurait peut-être pas réussi de parler du top 10. On verra ce qui se passe pour les prochains matchs. Mais là, à 38 points, même si on en parlait aussi dans une rubrique la semaine dernière, les Brestois nous ont malheureusement habitués à des fins de saison marquées par un effondrement de résultats. Là, c'est le moment de montrer que sur cette année 3 en Ligue 1, ils ont appris de leurs erreurs des années passées et qu'ils vont pouvoir, comme régulièrement depuis le début de la phase retour, gagner le petit match qui les éloigne définitivement. Ça avance quand même pas vite derrière, l'avantage des Brestois. Donc forcément, quand vous gagnez un match sur 3 ou un match sur 4, ça va tellement pas vite derrière que voilà, vous avez un peu plus de marge. Et là, oui, allez, encore une victoire.
Ouais, encore une victoire. Ce sera juste après la pub pour ça. Mais avant le premier écran publicitaire, on écoute donc les ambitions de Michel Der Zakarian et ce fameux top 10.
Non, pas plus qu'ailleurs. On avait besoin de points pour aller chercher notre maintien. Voilà, après, il faut qu'on ait l'ambition maintenant de gagner encore Il reste 8 matchs, j'ai gagné beaucoup de matchs. Vous pouvez essayer de faire le plein, même si on rencontre des grosses équipes. Il y a des équipes de notre niveau. Il va falloir prendre beaucoup de points pour essayer de terminer les 10 premiers, comme j'ai dit en début de saison.
Voilà, comme il l'avait dit en début de saison, Michel Derzakarian, avec ce fameux objectif du top 10 avec le Stade Brestois 29. Une première page de publicité et puis donc on poursuit sur ce chapitre SB 29.
Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama.
Ça se passe bien là-dessus ? Pardon Lionel, je vous déconcentre.
Pas du tout Cerise, mais quand on fait de la mécanique, on n'a pas le droit à l'erreur. Et sans voiture, les gens sont bloqués.
Avec l'assurance multirisque des pros de l'auto, Groupama vous accompagne et protège votre activité. Et en ce moment, 200€ sont offerts sur votre nouveau contrat souscrit. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions et variable suivant les caisses régionales Groupama participantes. Plus d'infos sur groupamapro.fr.
Waouh, jusqu'à moins 40% sur Amazon. Et si je m'offrais cette nouvelle montre waterproof ? Pour nager, là où aucun nageur n'a jamais nagé. Et apprendre le langage des dauphins. Ah bon ?
Jusqu'à moins 40% pour rêver en grand pendant les ventes flash de printemps Amazon. Jusqu'au 13 avril.
On en parle.
CAFPI est le pionnier et le leader du courtage en crédit immobilier en France. On en parle dans un instant avec son président Olivier Landrevi.
Vous saviez que Darty conçoit aussi des cuisines équipées ?
Ta cuisine est superbe.
Je sais.
Hyper photogénique.
Ouais, elle prend hyper bien la pose.
Jusqu'au 30 avril, on prolonge la pose chez Darty Concepteur Cuisine. Jusqu'à 100% de la pose offerte pour l'achat d'une cuisine. Prise de rendez-vous et conditions en magasin et sur cuisine.darty.com. Darty Concepteur Cuisine, des cuisines pensées pour cuisiner.
Le droit d'aller à l'école, ça vous paraît normal ? Et le droit d'avoir un travail, alors ? Chez Actual, acteur majeur du travail en France, nous travaillons tous les jours pour vous garantir ce droit. Travail intérimaire, recrutement, accompagnement vers l'emploi, formation. Avec Actual, construisons ensemble votre travail.
Et il l'a mis comment le but ?
Non mais laisse tomber, le gars récupère la balle et là, bam, huche, huche, 4 gars dans le vent. Après, bim, il la reprend et là, hop, tac, tac, retac, truc de fou, accélération, bam, tac, bim. Et là, boum, il la met au fond.
Parce qu'il y a des actions impossibles à décrire.
Vivez le grand spectacle des quarts de finale de l'UEFA Champions League avec Manchester City Atlético de Madrid demain à 21h sur Canal Plus Sport et Chelsea Real Madrid mercredi à 21h sur Canal Plus. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
L'opération 100% gagnante, c'est jusqu'au 30 avril chez Decra et Norisco. Réalisez votre contrôle technique auto dans un centre Decra ou Norisco et repartez avec un passe loisir. Il y a en plus 10 trottinettes et une Peugeot i2008 à gagner. Jeu avec obligation d'achat, conditions sur decra-norisco.fr. Aldi.
Dans la vie, on n'a pas tous cette copine qui nous dit
« Ah, trop cool !»
Car les mini œufs de Pâques labellisés Fairtrade arrivent dès demain chez Aldi à 1,99€ le sachet de 150 grammes. Oui, c'est « Ah, trop cool !» qui vous ferait dire que Pâques a tout bon, surtout avec un peu plus d'éthique. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
13,27€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, disponibilité et infos sur aldi.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
À quelques jours de l'élection présidentielle, profitez d'un accès illimité à l'actualité en vous abonnant à l'offre 100% numérique du Parisien. Programme passé au crible, sondage exclusif, candidat face à nos lecteurs, reportage au plus près des Français. Suivez en direct la campagne et ses coulisses et accédez à tous nos articles, vidéos, podcasts. Abonnez-vous dès maintenant sur leparisien.fr. Le Parisien, créez du lien.
Mythique présente, dans la tête de Fatou.
Ça y est, fin du premier rendez-vous. Le fameux moment de se dire au revoir, le stress. Ce qui va me faire la bise ou m'embrasser ? Oh là là, il s'approche. Oh, ça y est, il m'embrasse. Et en plus, il est doué.
Ça dit qu'on se revoit ?
Aimer pour de vrai, vibrer pour de vrai. Téléchargez Mythique.
Merci d'écouter Radio Bonheur avec le magazine des chaînes du football. 19h24, on est en direct jusqu'à 20h, on continue de parler de cette belle victoire brestoise, oui, qui ouvre des perspectives nouvelles peut-être aux Brestois outre le maintien.
Oui, peut-être donc ce fameux top 10 hein, dont ont beaucoup parlé les Brestois après le match lors de leurs différentes réactions. Franck Honorat lui a quand même tenu à rappeler que Bon, il fallait une victoire encore hein, pour que le maintien soit quasi sûr, on va dire, comptablement. On sait que c'est souvent la barre des 41-42 points qui est recherchée. Brest en a 38 actuellement, donc une victoire et on serait dans les clous. Écoutons justement Franck Honorin qui préfère maintenir tout le monde en éveil.
Il nous reste encore une victoire pour vraiment assurer le maintien, parce qu'on ne sait jamais, l'année dernière on s'est fait peur jusqu'à la dernière journée. Donc voilà, pas se reposer sur ses lauriers, continuer sur le match qu'on vient de faire, essayer de faire un résultat contre Nantes, puisqu'on a joué deux fois cette année contre eux et deux fois on a pris une petite raclée. Donc ça c'est intéressant dès le week-end prochain de commencer à prendre des points pour qu'on puisse jouer tous libérés. Après on peut faire des rotations, essayer de nouveaux systèmes, faire entrer aussi des joueurs, mais dans un premier temps c'est vraiment aller chercher cette victoire pour jouer libéré et sereinement.
Bon, il y a encore 8 matchs, hein, même si ça ne passe pas avec Nantes, il y aura encore 7 matchs après pour espérer une victoire. C'est bon, a priori maintenant quand même relativement cool pour les Brestois cette fin de saison.
Ben oui, parce que on regarde un peu le classement. Brest a 11 points d'avance sur le premier, enfin sur le 18e, sur le barragiste. C'est même 15 d'avance sur le premier relégable, mais c'est sur Bordeaux le dernier. Donc voilà, on voit que ça avance vraiment pas vite. On le disait il y a un instant derrière, avec notamment Clermont, Saint-Etienne, Metz et Lorient qui ont tous perdu. Seul Bordeaux a pris un point, mais Bordeaux était loin. Donc bon.
Il reste 7 ou 8 matchs
On est à 30, donc 8.
Il reste 8 matchs. 8 matchs à jouer.
24 points encore à prendre.
On avait 15 d'avance sur les relégables.
Ouais, normalement.
Ils vont pas prendre 20, 25 points, mais ça.
Donc... Il reste la 18e place à surveiller. Ouais. Mais bon. Une victoire et tout sera bâché. Je pense que c'est même déjà le cas, parce que je vois pas vraiment Saint-Etienne, ou même si Saint-Etienne le fait, il faudrait que Clermont, Lorient le fassent aussi, de remonter cette pente là aussi vite que leur ombre hein, quasiment, pour arriver à la cheville des Brestois. Donc c'est une victoire là, qui vraiment les met sur de très bons rails pour cette fin de saison. Et puis pourquoi pas effectivement maintenant aller chercher le top 10. Il est encore un peu loin, parce qu'il y a 6 points d'écart hein, avec la 10e place, donc entre Brest et Lens. Mais bon, ça reste jouable encore pour le Stade Brestois si la fin de saison reste un petit peu sur les mêmes auspices.
Prochain match donc des Brestois, match à domicile avec la réception des Canaries ce week-end.
Oui, Brest-Nantes dimanche à 15h. Donc un match qui là, c'est vrai que s'il y a victoire, ça permettra de se rapprocher du top 10, parce que Nantes est justement 8e avec 45 points. Donc s'il y avait une victoire, c'est vrai que ça recollerait un petit peu, permettrait de recoller à ces équipes-là. Bon, on verra ce que ça donnera pour les Tizèves qui ont été battus, comme le disait Franck Honorin, hein, deux fois cette saison par Nantes, en championnat 3-1 à la Beaujoire et en Coupe de France 2-0 là aussi à la Beaujoire.
Ouais, ça ne réussit pas trop au Brest, ouais, cette équipe de Nantes.
Une défaite assez nette. En plus, hein.
Ouais, en plus, ouais. Il n'avait pas existé.
Ça
ne
va pas être facile. Mais bon, là, ça sera à la maison, ça sera peut-être plus facile pour les Brestois, ou moins difficile.
On l'espère, pour les hommes de Michel Darzacarian, qui donc, une deuxième fois de rang, jouera face à l'un de ses anciens clubs, le Football Club de Nantes.
19h28, on se retrouve tout de suite pour parler de Lorient. Merci d'écouter Radio Bonheur. Chaque semaine, Radio Bonheur est écouté par 217 000 personnes en Bretagne. Sondage Médiamétrie, Média Local. En habitude d'écoute, 217 000 personnes auditoires semaine. Radio Bonheur en Bretagne, septembre 2020 à juin 2021, du lundi au vendredi, 13 ans et plus. Alors dans cette 30e journée du championnat de Ligue 1, Lorient 16e se déplaçait au Parc des Princes. Et là, pas de surprise.
Hélas non pour les Lorientais, mais je voulais juste rebondir sur quelque chose par rapport à Darzacarian qui jouait contre deux week-ends de suite contre ses anciens clubs. Ça arrivait tous les week-ends à Xavier Gravelaine.
Ah oui, il avait joué dans tous les clubs de Ligue 1. Donc...
Lorient qui a accru pourtant un moment, on va y revenir dans l'analyse de cette rencontre, pouvoir chatouiller un PSG qui a sorti par moments ses habits de gala et surtout un homme. On a dû citer 150 fois son nom hier soir durant la retransmission, mais voilà, Kylian Mbappé est sans doute actuellement, on va dire dans les trois meilleurs joueurs du monde, parce qu'on l'a vu en équipe de France durant la trêve contre l'Afrique du Sud, on l'a revu hier face au Lorientais, c'est lui et tous les autres dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Et en plus, Neymar et Messi se sont hissé à son niveau hier. Réécoutons ce qui s'est passé avec donc aussi, vous allez l'entendre, eh bien, cette période du match où on a cru que Lorient pouvait revenir.
Et ça, c'est un bon ballon de Mbappé pour Neymar qui marque. Ah, c'est terrible, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Cette équipe de Paris a trop de talent et le trio s'est mis en marche. Messi, Mbappé, Neymar, le trio a transpercé Lorient plein axe. Et Neymar a ajusté de l'intérieur du pied droit Mathieu Dreyer dans son petit filet. 1-0 pour Paris.
Le Goff pour la touche, Hakimi qui intervient devant Mofi, Danilo, Gueye maintenant avec Mbappé en 1 contre 1 avec la porte, Mbappé qui frappe et qui marque. 2-0, cette fois c'est but. Voilà, plus de conviction à l'image de ce ballon gratté par Le Goff dans la surface, Mofi en appui avec la frappe de Lefebvre à côté. Énorme occasion pour Lorient, 49e minute sur ce ballon que les Parisiens ont mis 2 siècles à dégager. Mofi a fait toute la place, il a donné en retrait sur le fait qu'il y a eu tout le temps pour envelopper à ras de terre. Donnarumma a été battu et ce ballon qui vient frôler la base du poteau du gardien champion d'Europe. Voilà ce que l'on doit voir plus souvent du côté de Lorient, des intentions. Ça restait collé, quelle mauvaise passe, c'est Mofi qui marque. Mofi qui profite de l'erreur parisienne. Superbe inspiration de Mofi qui a profité de ce PSG qui s'est endormi complètement. Hakimi qui a raté sa passe en retrait vers Marquinhos ou Donnarumma, on n'a jamais su. Et Mofi qui est passé entre les deux pour mettre son pied en opposition. Lorient a fait une partie du chemin 2-1. C'est très très étonnant, hein. Je sais pas, ils ont dû débrancher un truc à la mi-temps. C'est ce qui les guette, hein, dans cette fin de saison où pour eux il n'y a plus d'enjeu. Eh bien voilà, c'est de passer à côté, c'est de faire des erreurs comme celle qu'a fait Hakimi, même si là Hakimi récupère un bon ballon. Mbappé qui élimine la porte, qui frappe et qui marque. C'est pas possible, ils étaient à la rue depuis le début de cette seconde période. Et Mbappé, en un éclair, en un geste, en un tir, remet Paris sur le chemin du confort. C'est terrible pour Lorient. Attention, ballon qui peut être intéressant à négocier pour Mofi, l'arrêt de Donnarumma, c'est pas fini, on va parade dans un deuxième temps, on le fait maintenant, la frappe, oh là là, Marquinhos qui vient sauver la patrie parisienne. Oh là là, Mbappé encore qui sert la soupe là devant tout le monde dans la surface de réparation. Oh là là, la porte qui était à deux doigts de faire la faute. Mbappé qui sauve un ballon que tout le monde aurait perdu. Passe en retrait pour Messi, but. Mais ce Kylian Mbappé est monstrueux. Il a tout fait tout seul encore sur cette action. Et il ne manquait que Messi pour parfaire la partition du trio ce soir. Après Neymar, après surtout Mbappé, voici Messi. 4-1. Oh là là, Neymar qui met un petit pont après un double contact à Lemoine. Mbappé pour Neymar. Oh, si ça va au bout, c'est le début de l'année. Neymar, but. 5-1. Ah, alors d'accord, Mbappé, il est deux sur les temps passeurs. Mais c'est Neymar qui a fait 80% du travail. C'est terminé, victoire de Paris avec Mbappé étincelant, encore une fois impliqué sur les 5 buts ce soir. Le trio a écrasé Lorient, 2 buts de Neymar, 2 buts de Mbappé, 1 but de Messi. Paris était beaucoup trop fort pour Lorient ce soir.
Et ça se solde par une grosse victoire, hein, quand même, 5-1. C'est lourd pour les Merlus qui ne méritaient sans doute pas une défaite aussi sévère.
Non, on peut quand même regretter, voilà, les deux derniers buts tardifs, hein, dans les 10 dernières minutes qui donnent une addition un peu trop salée. Mais voilà, Mbappé a décidé de tout. Et je reprends la phrase de Vincent Duluc dans l'édito de l'équipe aujourd'hui. Il dit Kylian Mbappé est peut-être sans doute, sûrement, laissons le lecteur placer son curseur, le meilleur joueur du monde en ce moment. Quand vous tombez contre ce joueur-là, que vous soyez Lorient ou même le Real Madrid, ouais. On l'a vu il y a un mois, vous ne pouvez pas l'arrêter. Alors, le Real Madrid a battu le PSG parce que collectivement, voilà, c'est bien plus fort que Lorient. Mais voilà, il y avait trop d'écart entre cette équipe et les Merlus qui n'ont pas fait non plus le match parfait. Pélissier en parlait après le match. Pour pouvoir croire en l'exploit, il faut faire un match parfait, ne pas commettre d'erreurs. Il y a eu quelques erreurs de la part de Lorient, on y reviendra dans quelques instants. Première réaction, celle du gardien des Merlus, Mathieu Dreyer, bien malheureux hier soir.
Oui, c'est sûr qu'on était bien revenus en seconde mi-temps. En marquant ce but, ça nous avait donné un petit peu d'espoir. C'est vrai que ce troisième but arrive un peu trop tôt du coup. Après, on savait qu'avec la qualité qu'il y avait en face, la moindre erreur, ça se paierait cash. Je pense qu'on l'a payé au prix fort ce soir.
Oui, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour Paris dans ce match, mais souvent, c'est allé au fond. 7 tirs cadrés, 5 buts pour les Parisiens hier. Mais pourquoi ils ont marqué 5 buts en 7 tirs cadrés? Parce que souvent, ils ont été dans les meilleures conditions pour pouvoir frapper. Il y a eu des petites erreurs de Lorient. Il y en a eu une énorme, c'est celle de Le Goff qui perd le ballon sur le but du 3-1, le but qui change le match parce que c'était un moment où on était sans doute plus proche du 2-2 que du 3-1. Il y a eu cette erreur qui a profité à Hakimi puis Mbappé, mais Pélissier regrettait surtout ces erreurs qui ont donc offert quelques buts aux Parisiens.
C'est ça, contre des équipes comme ça, on savait déjà qu'il fallait être fort à l'intérieur. Le premier, on se fait transpercer à l'intérieur. Le second, c'est sur une touche qu'on perd à 30 mètres de nos buts. Et le troisième, c'est un ballon perdu à 20 mètres de nos buts aussi, ou 25 mètres. Donc ça ne pardonne pas contre ce genre d'équipe. Perdre ici, il n'y a rien d'infamant. Après, ce qui me met un peu en colère, c'est à la fin du match d'ouvrir un petit peu et de soigner notre goal average, mais dans le mauvais sens. Donc ça, c'est pas bon pour nous.
Ouais, c'est ça le petit bémol hein, de la soirée, c'est cette différence de but qui du coup eh bien maintenant est de moins 23 pour ouais. Lorient,
moins 24
pour Clermont qui est juste derrière, et pour Saint-Etienne aussi qui a moins 24 mais avec 27 points, un point derrière. Donc ouais, mais Paris va jouer beaucoup de clubs qui discutent
Clermont PSG le week-end prochain.
Clermont PSG effectivement samedi prochain en Auvergne. Donc oui, c'est ça. Et puis c'est ce qu'on disait pendant le direct. C'est pas des erreurs nettes, mais sur le premier but, il transperce quand même Lorient en trois passes, plein axe. Ouais. Le deuxième but, Laporte. Déjà, c'est une touche pour Lorient à 30 mètres de son but. Vous pouvez quand même mieux la négocier. Et puis surtout, Laporte. Il laisse 2 mètres à Mbappé pour pouvoir faire son enchaînement. Contre ce genre de joueur-là, il faut être à 50 cm.
C'est ce qu'avait dit Brest, hein, d'ailleurs, quand les Brestois étaient allés au Parc des Princes au mois de janvier. Brendan Chardonnay avait dit après le match, si on lui laisse 20 cm de trop, on ne le revoit plus, en fait, Kylian Mbappé. Ouais. Et bon, là, ils ont laissé même un peu plus que 20 cm, les Merlus. Mais ouais, dès qu'il a un peu d'espace, de toute façon, ça devient trop compliqué pour l'adversaire, surtout quand l'adversaire ne s'appelle pas donc le Real Madrid ou autre. Et même en s'appelant le Real Madrid, on l'a vu, on le disait que c'était pas forcément évident. Donc évidemment, dès qu'il a un tout petit peu d'espace, il en profite et c'est une arme vraiment redoutable à chaque fois. Quasiment toutes les défenses de Ligue 1 en ont déjà fait les frais cette saison, mais on l'a vu surtout hier soir où il a été omniprésent.
Oui, et Kylian Mbappé d'ailleurs, on va l'écouter dans un instant. Il s'est arrêté à notre micro en zone mixte. Ça sera juste après une page de pub.
Découvrez ou redécouvrez toutes les grandes chansons de Bourvil.
Je lui fais, elle me fait.
Nous vieillirons ensemble.
À quel bonheur, à quel bonheur. D'être un vrai
convoyeur. Quel
bonheur, tu dis que c'est pas drôle, mais tu rigoles quand même.
Hein. Oh, tant pis pour toi, je t'en fais autant. Allez.
Il est des mots tendres qu'elle aime entendre. Tendre Lola.
La tec-tec-tec-tic-tic du gendarme.
Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non. On ne le pourrait pas.
Les 50 plus grands succès de Bourvil sont disponibles dans un coffret double CD à la boutique Radio Bonheur pour seulement 19€, frais de port offert. Commandez par téléphone au 02 96 63 00 63. Retour du magazine des déchaînés du football à 19h40 avec cette lourde défaite des Merlus hier soir au Parc des Princes.
Oui, et pourtant, il y a eu ce premier quart d'heure de la seconde période qui a été à l'avantage de Lorient. Lorient qui est revenu à 2-1 de manière très logique, même si c'est intervenu sur une grosse étourderie de la défense parisienne entre Hakimi, Marquinhos et Donnarumma. Mais voilà, sur ce quart d'heure, il y a eu 4 tirs à 0 pour Lorient. Une impression que les Merlus étaient bien mieux revenus des vestiaires et que Paris avait éteint la lumière. Du coup, la question a été posée au champion du monde, Kylian Mbappé. Que s'est-il passé dans le premier quart d'heure de la seconde période pour que Paris soit à ce point anesthésié et apathique? Écoutez sa réponse.
J'ai pas compris, moi aussi j'ai pas compris. Voilà, on avait fait une bonne première mi-temps, on a eu ce trou d'air de 10 minutes. On prend un but qu'on donne et après on arrive à redresser la barre. Mais si je peux essayer de donner une explication, c'est que j'ai pas compris.
Voilà, donc même lui n'avait pas d'explication. Mais c'est aussi Lorient qui a mieux fait les choses. On a posé la même question du coup à l'entraîneur Christophe Pélissier. Lui avait un petit peu plus d'arguments.
Ben, je crois qu'on a mieux défendu en avançant, on a laissé moins de temps et d'espace à cette équipe-là. Voilà, on sait que face à des joueurs de ce talent-là, s'ils ont un plus du temps, un peu d'espace, ce que je disais en première mi-temps, je trouvais qu'à un moment donné, on laissait trop jouer, on était moins présents défensivement. Alors après, c'est difficile, hein, parce que en face, ils nous font beaucoup courir. Mais voilà, après je trouve qu'en deuxième mi-temps, on est très bien rentré en deuxième mi-temps. Et comme je dis, c'est dommage d'avoir pris ce troisième but.
Ah, c'est le troisième but qui tue tout suspense dans cette rencontre. Et vraiment un moment où, là pour le coup, on ne l'a pas vu venir celui-là. Le troisième but parisien avec cette frappe éclair de Kylian Mbappé. C'est vrai qu'on peut être un peu déçu, Gaëtan, parce que ces derniers temps, Lorient était quand même bien plus solide. Ouais. 5 matchs sans prendre de but sur les 7 derniers. On se souvient aussi du déplacement à Monaco où Lorient avait été très costaud, très compact défensivement. On voulait voir ça hier. Ça a un petit peu volé en éclats.
Ouais. Ben, contre Paris, de toute façon, la question est toujours de savoir un peu comment va être Paris, dans quel état aussi va être Paris et Mbappé. Et bon, quand il est dans cet état-là, dans cette forme-là, forcément pour l'adversaire, c'est plus délicat. Ça l'a été pour Lorient. C'est vrai qu'il y a peut-être quelques étourderies qui auraient pu être évitées pour que la note soit moins salée. Ces erreurs-là n'étaient plus commises ces dernières semaines, parce que même sur les quelques buts encaissés ces derniers temps, contre Montpellier par exemple, bon, il n'y avait pas de grossière erreur. Contre Lyon, un petit peu plus. Mais voilà, ça avait tendance à être peu à peu gommé par la défense de Lorient. Là, c'est vrai que c'est un peu réapparu. Mais encore une fois, bon, c'est toujours des matchs qu'on met un peu entre parenthèses, parce que c'est toujours un peu à part, surtout quand c'est au Parc des Princes. On l'avait vu au Moustoir, ça avait été un peu différent. Mais quand c'est au Parc des Princes, bon, même quand le PSG n'est pas forcément bien, il gagne les matchs généralement à la maison. Donc c'est toujours un peu particulier et difficile d'avoir vraiment un constat à tirer après ce 5-1 là.
Et Paris qui est sur 22 matchs sans défaite au Parc des Princes. Hein. Cette saison à domicile, c'est 15 matchs, 14 victoires et 1 nul. Donc ils ont laissé passer des points, mais à l'extérieur.
Oui.
On a vu le 3-0 à Monaco sur la dernière journée, le 3-1 à Nantes, la défaite au Real Madrid aussi. C'est l'équipe qui a pris le ratio de victoire le plus élevé dans les championnats européens. Il n'y a que 2 autres équipes dans les 5 grands championnats qui n'ont pas perdu, c'est Liverpool et Séville. Donc c'est dire que voilà, c'est dur d'aller chatouiller ce PSG-là au Parc des Princes. Et puis, surtout, ce qu'on a remarqué hier sur les buts, c'est que c'était des vrais buts, des beaux buts de la part de Paris à chaque fois, au ras du poteau. Messi, c'est barre rentrante. C'était imprenable pour Mathieu Dreyer. Alors du coup, on a posé la question au gardien lorientais. Ne sait-il pas trouvé complètement impuissant? Voici sa réponse.
Bah, c'est frustrant, c'est ce que j'en parlais avec l'entraîneur de gardien. C'est vrai que c'est frustrant parce que j'ai l'impression que je fais aucun arrêt, ou peut-être un ou deux arrêts, mais enfin je fais pas grand chose. Et tous les buts que je prends, ben, si ce n'est je crois le deuxième de Neymar où je pars peut-être un peu trop vite, mais le reste j'ai l'impression que je peux vraiment rien faire. Ça va à une vitesse, c'est super bien placé, ça te laisse aucune chance. Ils sont chirurgicaux en fait dans tout ce qu'ils font quoi, quand ils sont devant notre surface.
Et voilà, ça a été donc l'addition. C'est vrai que sur le dernier but de Neymar, il se jette un peu trop vite dans le face-à-face. Mais sinon, Oui, et puis la réflexion, on l'a eu, hein. On s'est posé la question à un moment, mais est-ce que Dreyer a fait un arrêt dans ce match? Et oui, au tout début du match, à 0-0, il en fait un très, très important devant Mbappé après une frappe qui a laissé un petit rebond vicieux devant la ligne de Dreyer. Mais voilà, c'était un match à part, vous le disiez, Gaëtan. Ce qui arrive maintenant, ils en ont tous parlé, hein. Pelissier, Dreyer, Koné aussi, qui sont passés à notre micro hier. Ils ont très très vite basculé sur Lorient Saint-Etienne, ouais. Parce que pour le coup, celui-là, faudra pas du tout le mettre entre parenthèses.
On va faire le point justement sur le classement. Lorient Saint-Etienne la semaine prochaine, et dans le même temps, on disait Clermont qui joue contre le PSG, donc il y a de bonnes chances que Clermont n'avance pas beaucoup. Et Bordeaux reçoit Metz. Donc là aussi, il y a au moins un des deux qui va y laisser des plumes, mais c'est peut-être l'heure de creuser l'écart le week-end prochain. Pour cela, il faudra gagner contre Saint-Etienne.
Ouais, match hyper important, hein, le week-end prochain. Alors, match en plus qui se jouera un horaire et un jour un peu particulier. Ce sera le vendredi soir, match, je crois que c'est à 21h vendredi prochain, oui. Lorient contre Saint-Etienne. C'est vraiment, ça peut être un tournant dans ce championnat, dans un sens comme dans un autre. Hein. C'est-à-dire que Lorient peut effectivement se retrouver 18e ou du moins
17e. Ce sera surtout un tournant si Lorient le gagne.
Voilà,
parce
ce sera un tournant.
Ils creuseront du coup l'écart.
Si on a une victoire du côté de Lorient. Sinon, même un match nul, ça restera encore. Ça restera encore dans des à un niveau difficile pour Lorient cette fin de championnat. Il faut gagner, il faut prendre les 3 points à domicile contre Saint-Etienne. Si Saint-Etienne gagne, hein, Saint-Etienne prend 2 points d'avance sur Lorient. Saint-Etienne passe à 30 et Lorient resterait à 28. En cas de match nul, l'écart restera le même. Un point seulement entre Lorient et Saint-Etienne. Et en cas de victoire de Lorient, par contre, là, Lorient passerait de 28 à 31 points contre 27 pour Saint-Etienne. Là, 4 points d'écart, ça devient significatif. Il faut une victoire. Voilà, il faut une victoire pour Lorient pour qu'on puisse respirer un petit peu du côté des tangos le week-end prochain. Ça ne sera pas simple, d'autant que cette équipe de Saint-Etienne n'est pas la plus mauvaise équipe, hein, dans les mal classés. Moi, je vois surtout, outre Metz et Bordeaux, qui pour moi sont déjà presque en Ligue 2, mais outre Metz et Bordeaux, je crois que Clermont, et il ne faut pas oublier Angers, hein, même si Angers a gagné contre Brest il y a 8 jours, il ne faut pas oublier Angers. Pour moi, Angers et Clermont sont les deux équipes qui risquent sans doute le plus avec Lorient de jouer les barrages en fin de saison. Il faut suivre.
Angers Lille en plus dimanche.
Ouais, ça va être difficile encore pour
après,
Angers.
Saint-Etienne, là où on voit qu'ils ont fait une grosse série pour recoller à la 18e, 17e place. Et depuis,
perdent pas souvent. Perdent pas souvent.
Hein.
Ouais, mais ils gagnent pas souvent, mais ils perdent pas souvent. Saint-Etienne, ça va pas être facile, hein, du tout pour les Merlus. Je serais pas étonné qu'on ait un match nul, par exemple, parce que Saint-Etienne va aussi s'accrocher. Pour eux, c'est le maintien, hein, encore plus clairement que pour Lorient, puisque eux, ils sont 18e. Ça sera
à
pas facile.
Vendredi soir.
Ça sera à vivre en direct, en intégralité, oui, sur les ondes de Radio Bonheur. Le week-end prochain, dès 20h30, prise d'antenne à 20h30 pour ce match. On sera à la 31e journée du championnat de Ligue 1. Autrement dit, il restera encore 8 matchs après ce match, peut-être presque déjà décisif pour les Merlus. Vous avez déjà un pressentiment ou pas, messieurs, sur la place de Lorient en fin de championnat?
Moi, je veux qu'ils se sauvent en barrage pour avoir un peu une belle émotion. Je veux pas qu'ils descendent. Hein.
Ah, mais c'est toujours risqué. Hein,
mais en barrage, c'est toujours plus sympa.
Moi, je me dis que c'est pas impossible de sauver avant les barrages.
Non.
Je pense qu'il peut y avoir Clermont. Et moi, je suis même un peu plus persuadé que ce sera peut-être même Saint-Etienne le barragiste.
Ah non,
mais,
je suis pas d'accord.
Mais bon, on verra bien.
C'est les paris de l'année dernière.
Mais à voir. Je suis pas persuadé que Lorient sera barragiste. Mais bon, ça reste une possibilité. C'est pas. Disons que là où c'est difficile de le savoir, c'est qu'il va y avoir beaucoup de confrontations directes et que c'est là que tout va basculer en fait. Il y en a encore beaucoup. Lorient doit encore jouer. D'ailleurs, on parlait de Saint-Etienne, mais Lorient doit affronter aussi Metz, doit affronter Troyes, doit affronter Bordeaux. Bon, peut-être que Bordeaux d'ici là sera condamné si la série se poursuit ainsi, mais il y a beaucoup de confrontations directes encore et finalement tout peut basculer du tout au tout sur ces matchs-là. Donc,
des confrontations directes qui n'ont pas été forcément bien abordées sur la première.
Ils n'en ont pas gagné une seule sur la phase aller, les Merlus.
Alors que c'était leur force l'année dernière.
Oui, et sur la phase retour, c'est un peu mieux pour l'instant. Il y a une victoire à Clermont. Il y a eu la victoire à Brest qui n'était pas encore aussi haut que maintenant en termes de points. C'est un petit peu mieux, mais c'est pas non plus.
La folie totale.
Une petite pause, messieurs. On vous retrouve dans 2 minutes et 54 secondes pour la suite du magazine des déchaînés du football. Et on parlera de l'en avant Guingamp. On parlera déjà de l'en avant Guingamp.
Oui, et
on
programme adapté retour. Aujourd'hui. Ouais, ouais, programme adapté. On reviendra sur le foot amateur en toute fin d'émission.
Gafpi est le pionnier sur le marché du courtage en crédit immobilier. En France, chaque année, ce sont plus de 8 milliards de financements obtenus pour les clients de Gafpi. On en parle avec Olivier Landrevi, son président. Bonjour.
Bonjour.
Olivier Landrevi, vous êtes leader sur votre marché. Alors comment vous expliquez ça ?
Vous savez, ce métier, c'est Gafpi qui l'a inventé il y a 50 ans. Et pour nous, ce métier, ce n'est pas de vendre un produit. C'est de construire la solution de crédit qui va vous permettre de vous offrir la maison de vos rêves. Le meilleur taux, l'assurance la plus adaptée et la tranquillité de savoir que tout est pris en main.
Et quels sont les avantages de passer par un courtier Gafpi ?
Bien, chez Gafpi, le conseil a un visage humain, celui d'un de nos 1000 courtiers. Et ces courtiers sont des entrepreneurs. Vous conseillez dans vos projets de vie les plus importants, c'est véritablement leur business. Et donc, leur réactivité et la qualité de leur accompagnement sont juste sans pareil.
Olivier Landrevi, merci beaucoup.
Pour découvrir l'agence la plus proche de chez vous, faire une simulation en ligne et concrétiser vos projets, une seule adresse, cafpi.fr. Courtier en opération de banques et assurances immatriculée à l'ORIAS. Aucun versement ne peut être exigé avant l'obtention d'un prêt.
Aldi. Dans la vie, on n'a pas tous cette tante qui nous dit
« Du bonheur !»
Car le sachet de carottes bio Origine France arrive dès demain chez Aldi à 1,39€ le kilo. Oui, ce petit « du bonheur » qui rajouterait, cuit ou cru, un peu de couleur et de bonne humeur dans vos petits plats. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
Offre valable du mardi 5 au samedi 9 avril, info sur aldi.fr.
Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama.
Alors Clément, votre commerce a désormais un site web ?
Eh oui Cerise, mais la vente en ligne c'est nouveau pour moi et j'aimerais vraiment réussir.
Vous savez, avec l'assurance multirisque pro Groupama, nous protégeons sans surcoût votre nouvelle activité en ligne. Et en ce moment, nous vous offrons 200€ sur votre nouveau contrat souscrit.
Bah c'est parfait !
Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions et variable suivant les caisses régionales Groupama participantes. Plus d'infos sur groupamapro.fr.
L'atout, c'est quoi toutes ces cartes à collectionner ? Tu sais que ça vaut de l'or sur eBay ?
Bah je sais pas, j'ai trouvé ce classeur dans une brocante, c'est joli en déco.
Mais regarde, t'as des rares, des légendaires, Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon.
Attends David, mais moi je savais pas que ça avait de la valeur.
Ton classeur, c'est un truc de ouf, elles sont trop bon état en plus, mais vends-les.
T'as raison, ça part.
Tech, jeu, cartes à collectionner,
ça part sur eBay.
Une fissure sur votre pare-brise ? Chez Carglass, quand il y a une urgence, on vous trouve toujours une solution. Nos clients nous le disent, c'est rapide et efficace chez nous. En plus, pour toute réparation d'impact ou remplacement de pare-brise, Carglass vous offre un lave-vitre électrique Karcher. Ça nettoie sans laisser de traces. Alors profitez-en, prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr.
Offre prolongée jusqu'au 9 avril.
Carglass répare, Carglass remplace.
Détail de l'étude et conditions sur carglass.fr.
Mythique présente, dans la tête de Julia.
Mon premier live mythique. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire, moi ?
Salut, je suis Julia. J'attends de chanter sous la douche. Super.
Bon, ça vous dit un petit blind test, histoire de briser la glace ?
Ah ouais. Ah, mais trop bien !
Maintenant, avec les lives mythiques, découvrez des célibataires autrement, sans filtre et en direct. Téléchargez Mythique.
Vous écoutez Radio Bonheur avec le magazine des déchaînés du football. On enchaîne déjà avec Guingamp et la Ligue 2. Belle victoire de Guingamp à Nîmes ce week-end.
Oui, oui, un succès 2-0 hein, sur la pelouse de Nîmes pour Guingamp qui s'est imposé pour la première fois de son histoire au Stade des Costières. Jamais Guingamp n'avait gagné à Nîmes en 9 déplacements. Il a fallu attendre le 10e. C'est aussi la première fois de la saison que Guingamp aligne 2 victoires consécutives. Ça n'était jamais arrivé. Alors il y avait eu parfois plusieurs des petites séries avec plusieurs matchs sans défaite, mais jamais 2 victoires de rang. Voilà qui est fait avec l'enchaînement Nancy et Nîmes pour Guingamp. Un succès 2-0. C'était samedi soir et donc on réécoute évidemment ce qu'il s'est passé au Stade des Costières.
C'est frappé par Mchangama, ce deuxième corner, c'est dégagé, ça revient sur Livolan, frappe de Livolan, la barre pour Jérémy Livolan, c'est parti très fort et il me semble que Brad Veit a touché ce ballon avant que la frappe de Livolan ne termine sur la barre de Brad Veit. 4e minute et la grosse, très grosse occasion des Guingampais. Donc en Guingampais avec Benraou qui va orienter le jeu à droite vers Ferrat, centre de Ferrat, c'était même une frappe et le ballon est repoussé par Enzo Basilio qui s'est très vite couché au sol pour fermer son angle. Allez, corner, c'est Barthélemy qui le frappe juste avant la pause, c'est frappé pied gauche. gauche, personne pour reprendre ce ballon. Gomis est là, la frappe elle est contrée. Livolon à son tour encore, juste à côté. Ah, la belle occasion, Guingampé juste à côté. Civis à droite pour en avant. Allez, il va lever la tête. Civis centré vers Gomis. Contrôle de la poitrine dans la surface de réparation. Barthelmé qui est trouvé. Civis qui fait l'effort, qui est retrouvé également. Le centre et le but Guingampé. Jérémy Livolon, lui qui marque décidément toujours à l'extérieur, toujours face aux sudistes, après Rodez, après Ajaccio. C'est à Nîmes qu'il vient ouvrir le score. Jérémy Livolon et Guingamp dans ce début de seconde période qui marque à l'extérieur, qui prend les devants au stade des Costières. Il avait frappé la barre en première mi-temps. Il trouve le chemin des filets de la tête. 1-0 pour Guingamp. Quimper, Quimper face à Paquet, centre de Quimper vers Pierrot de la tête. Oh, la parade de Bradveit pour détourner ce ballon. Pour Mshangama, c'est parti. Et c'est sauvé sur la ligne. La tête de Pierre Lemonnier sauvée sur la ligne. Oh, par Gaëtan Paquet. On était vraiment tout proche de 2-0. Vers Pierrot, déviation de la tête de Paquiez, le Nîmois, Mbo qui est à la retombée de cette balle, le pressing de Merghem sur Martinez, qui va pousser Martinez à la faute, et Merghem qui va se présenter seul face à Bradveit. Ils sont 3 contre 1, les Guingampais, frappe de Merghem, à côté, à côté, mais c'est gâché, que c'est gâché pour Merghem, alors qu'il y avait Livolon à droite, et Pierrot à gauche, il l'a joué seul, Merghem, et il n'a pas trouvé le cadre. Ben Raoult, centre de Ben Raoult, tête juste à côté là aussi. Ouh, c'était chaud devant le but de Basilio. C'était très très chaud et la tête qui passe à quelques centimètres. Derrière, il y a beaucoup d'espace pour les Pierrot, Livolon, même Quimper et Merghem qui se projettent. Il y a pas mal d'espace à négocier là encore pour Civis. Côté droit vers Pierrot, 2-0. Cette fois, ça y est, le deuxième but Guingampais, le 11e. Le 11e de la saison pour Franz Di Pierrot. On est passé tellement de fois proche de ce deuxième but, mais tellement proche aussi, lui, un partout, il y a quelques instants. Cette fois, ça bascule vraiment du côté de Guingamp grâce à Franz Di Pierrot, grâce aussi à la deuxième passe décisive de la soirée de Maxime Civis. 2-0 pour en avant. Et la victoire de Guingamp anime la première de son histoire au stade des Costières. Il aura fallu attendre 10 déplacements à Nîmes pour que Guingamp s'impose. C'est fait grâce à Livolon et Pierrot.
Et voilà, deuxième victoire consécutive pour Guingamp. Ouais. Sixième ex aequo hein, au classement. Bon, huitième officiellement, mais avec le même nombre de points que le sixième, que Caen, Pau, par exemple. C'est,
ouais, Guingamp a rejoint là, tout ce peloton-là jusqu'à la sixième place.
Belle opération, en tout cas.
Ouais, 42 points, ça permet maintenant aussi.
Et le maintien, qui est bon, on n'en a pas beaucoup parlé, maintien, c'est vrai, parce qu'on était à peu près sûr du maintien depuis un petit moment du côté de Guingamp. Mais là, ça y est, la barre des 42 points, elle est atteinte. Le maintien est atteint de manière certaine pour les Guingampais.
Voilà, maintenant ça va être une fin de saison plutôt tranquille, et puis d'aller chercher la meilleure place possible, comme ils l'ont dit depuis de longtemps maintenant, les Guingampais. La meilleure place possible, ce sera la sixième, parce qu'au-dessus, évidemment, il y a beaucoup trop d'écart avec la cinquième place, c'est d'aller chercher cette place-là, d'aller
12 points,
poser un peu les
12
les
points, c'est énorme, hein, entre le cinquième et le sixième, il y a 12 points, c'est un gouffre. Ouais.
Mais surtout, ce qui est intéressant dans cette fin de saison, c'est qu'il reste donc 7 matchs à jouer pour Guingamp, et sur ces 7 matchs, Guingamp va jouer contre les 4 clubs qui l'accompagnent dans le haut du ventre mou, et dont la plupart à domicile, parce qu'il y aura Guingamp-Caen, Caen est 6e, il y aura un Guingamp-Pau, Pau est 7e, il y aura un Dijon-Guingamp, Dijon est juste derrière, et on terminera la dernière journée par Guingamp-Le Havre qui est 10e. Donc voilà,
c'est les deux clubs qui sont devant et les deux clubs qui sont derrière.
Oui, il y aura 14 points d'écart entre les deux.
Ah ouais, le Havre, vu la série, là, ils vont finir 15e. Là,
ouais, c'est vrai, mais voilà, donc c'est pas non plus ultra excitant, non. Mais c'est le petit challenge à aller chercher.
Oui, puis c'est de poser aussi un peu les fondations pour la saison prochaine.
Et un élan.
Donc préparer la suite pour en avant, en tout cas. Ça fait 2 victoires de rang et il y a enfin un élan un peu plus long que d'habitude pour Guingamp, parce que ça fait aussi 4 matchs sans défaite pour les Rouges et Noirs de Maxime Civis. Écoutez l'analyse du double passeur décisif.
Ouais, je pense qu'en première mi-temps, on a eu un peu de mal à faire des jeux l'adversaire. On a eu quelques situations, mais on a mal exploité. Je pense qu'on a, toute l'équipe, on avait un manque de maîtrise technique. Après, le coach, il a rectifié le tir à la mi-temps. C'est vrai qu'il nous a dit que pour aller gagner ce match, il fallait qu'on ait un peu plus d'agressivité, un peu plus de maîtrise technique. Un peu plus de maîtrise technique, c'est sur les centres. En deuxième mi-temps, c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'on a élevé notre niveau de jeu, notre niveau d'agressivité. Et on est allé chercher les 3 points. Donc c'est important et ça fait du bien de rentrer avec les 3 points à la maison. Surtout que c'est la première fois qu'on fait 2 victoires d'affilée de la saison.
Ouais, c'est la première fois de la saison que ça arrive pour en avant. C'est aussi la première fois cette saison que Maxime Civis est passeur décisif. 2 offrandes pour Jérémy Livolant et Franz Di. Pierrot, place aux informations sur Radio Bonheur. Et puis on revient donc pour la suite du chapitre En avant Guingamp.
Retour du magazine.
Bonsoir à tous. Décor avec pieds et mains coupés, des femmes violées. Voilà ce qu'a fait l'occupant. Depuis Boutcha, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé ce lundi des crimes de guerre. Ce sera reconnu par le monde comme un génocide. C'est ce qu'il a assuré. Plusieurs dizaines de corps, la plupart étant des civils, ont en effet été retrouvés au sol dans cette ville lors du retrait des troupes russes, suscitant une indignation internationale. Le président américain Joe Biden a déclaré vouloir un procès pour crimes de guerre après la découverte de nombreux corps à Boutcha dans les environs de Kiev. Il a également dit qu'il voulait prendre des sanctions supplémentaires contre la Russie aux journalistes et qu'il l'attendait pour son retour à Washington après un week-end dans sa résidence familiale du Delaware. Imaginez un monde où les voitures électriques auraient remplacé les moteurs à explosion, un monde alimenté en énergie par des champs d'éoliennes et de panneaux solaires, où le charbon, le gaz et le pétrole figureraient dans les livres d'histoire comme des énergies du siècle passé, un monde où l'on ne mangerait plus de viande à tous les repas mais des protéines végétales. C'est peut-être une utopie, mais pour les climatologues, c'est le seul modèle de développement vraiment durable qui serait compatible avec une baisse drastique de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est en substance le message délivré par le nouveau rapport du groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, le GIEC, dévoilé ce lundi après-midi. 278 scientifiques du monde entier ont épluché plus de 18 000 études pour déterminer, secteur par secteur, les meilleurs moyens d'atténuer le réchauffement de la planète. Selon les experts, il n'y a plus que 10 ans pour agir. La préfecture du Finistère a annoncé ce dimanche qu'un premier foyer d'influenza aviaire a été détecté dans le département dans un élevage de canards gavés à Plounévezel, près de Carhaix. L'abattage préventif de l'élevage concerné a été réalisé le 1er avril. C'est ce qu'ont précisé les autorités sans attendre la confirmation dès le lendemain du caractère hautement pathogène du virus. A noter que des milliers de volailles élevées dans une bande de communes située entre les Pays de la Loire et de la Bretagne pourraient être abattues également préventivement. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.
Une bande de thon remontant la rivière s'en allait gaiement, s'en allait gaiement. Une bande de thon remontant la rivière s'en allait gaiement vers Val d'Isère, la Rilonlaire s'en allait gaiement vers Val d'Isère. Le roi des thons avec sa régulière, frétillait gaiement, en tête des thons, qui remontait la rivière, allant directement vers Val d'Isère, la Rilonlaire, allant directement vers Val d'Isère. Tcha 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 les thons, 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 tcha 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 les thons. Tcha-tcha-tcha les thons avec un thé comme crocodile. Tcha-tcha-tcha les thons avec un thé. Une bande de thons remontant la rivière s'en allait gaiement, s'en allait gaiement. Une bande de thons remontant la rivière s'en allait gaiement vers Val d'Isère, la Rilonlaire s'en allait gaiement vers Val d'Isère. Quand on est ton, c'est pour la vie entière, faut se faire une raison, faut se faire une raison. Une tête de ton, qu'elle soit dans la rivière ou qu'elle soit sur terre, faut se la farcir, la Rilonlaire, c'est le tcha-tcha des tons de Val d'Isère.
cha 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 les tons, 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 avec un thé comme crocodile, cha 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 les tons, avec un thé.
Radio Bonheur.
Radio Bonheur, 20h04, presque 20h05, la dernière demi-heure du magazine des déchaînés du football maintenant. Et on continue de parler de l'en avant Guingamp qui a fait une bonne opération ce week-end en s'imposant pour la deuxième fois consécutive et dans un déplacement à Nîmes ce week-end, samedi soir.
Oui, Nîmes qui est au coude à coude avec Guingamp au classement. Les deux équipes étaient à égalité avant le match. Guingamp a donc pris trois longueurs d'avance sur les crocodiles nîmois. Et surtout, on a vu, Pierre, par rapport notamment au dernier déplacement à Rodez, par rapport aussi à la réception de Quevilly-Rouen il y a quelques semaines, eh bien, des Guingampais dans une autre attitude lorsqu'ils menaient 1-0. On les a vus plus actifs et moins attentistes et donc moins aussi soumis à la faute.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait déjà vu ça contre Nancy avant la trêve. Oui. On avait parlé de leçons retenues.
Contre un Nancy très faible aussi.
C'est vrai. Pas dire que Nîmes était bien supérieur, mais c'est vrai que ça s'est joué dans l'attitude aussi, le fait de ne pas reculer. Mais c'est intéressant parce qu'on voit cette équipe, alors, qui nous transporte pas dans d'immenses émotions. C'est pas du football champagne, mais c'est appliqué, c'est... Ouais. Et puis surtout, on a l'impression là, de suivre une petite classe d'écoliers, de jeunes, là, qui découvrent un nouveau monde, la Ligue 2, et qui montrent que les leçons sont retenues de plus en plus. Donc c'est intéressant parce que cette équipe concède toujours aussi peu d'occasions, concède pas beaucoup de buts. Et comme disait Dumont après le match contre Nancy, c'est régulièrement Guingamp qui est maître du temps dans ces matchs. Donc c'est très intéressant. En plus, il a ouvert le score lors des 4 derniers matchs. C'est autant que sur les 14 précédents. Ouais. Donc c'est quelque chose aussi qui devient plus régulier du côté d'en avant. Donc voilà, il y a plein de petits signaux et de petites étapes qui sont progressivement en train de se débloquer. Voilà, on est en train de déverrouiller plusieurs choses d'un coup du côté de Guingamp. La route est encore longue avant d'avoir ambitions, mais ça progresse vraiment là dans cette seconde partie de saison.
Et on l'a vu donc dans l'attitude lorsque Guingamp menait 1-0. Écoutez El Hadjiba, tendez l'oreille parce que la zone mixte à Nîmes, elle est à l'extérieur. Il y avait un peu de vent au Costières samedi soir. On l'entend quand même, mais écoutez bien.
Maintenant, quand c'est comme dans un ring de boxe, on vous met un coup, c'est soit j'essaie d'encaisser, soit j'essaie de mettre des coups. Ça peut pas se passer dans un sens et dans un autre. Moi, je préfère mettre des coups parce que je me dis que même si je dois en prendre une, je sais que bon, je mène 1-0, donc lui, il est un peu plus blessé que moi. S'il s'ouvre et que je mets un but, ils sont complètement finis. Ça s'est passé pour nous cette fois-ci, donc tant mieux. Bon, la dernière fois, on a fait l'inverse et c'était contre nous, donc on était obligé de tenter, on va dire, d'essayer d'attaquer à notre tour pour voir si on peut essayer de tuer le match, et c'est ce qu'on a fait.
Ouais, la dernière fois à Rodez, justement Guingamp qui s'était fait rejoindre sur le fil, la 95e minute sur un pénalty de Rodez et qui finalement n'avait pas été peut-être assez acteur de son match, avait un petit peu géré.
Avait perdu le fil.
Ouais, c'est ça, perdu le fil après le rouge de Merghem.
Après le rouge de Merghem, on a complètement senti venir l'égalisation.
Ouais, ouais. Et là, Guingamp était vraiment dans une autre attitude et on les a vus. Alors, on entend El Hadjiba qui lui dit. Ils ont voulu vraiment continuer de faire mal à Nîmes pour aller mettre absolument ce deuxième but. Ça s'est vu avec pas mal d'occasions, on les a entendus dans le résumé. Stéphane Dumont le dit aussi, mais avec d'autres arguments également. Écoutez-le.
Le danger, c'est ça. C'est vous menez 1-0 et forcément, vous avez envie d'aller mettre le deuxième, mais vous ne pouvez pas vous exposer non plus face à une équipe qui forcément a envie d'égaliser chez elle. Donc, le tout, c'est de garder un équilibre. On savait qu'à la récup, il fallait qu'on soit en capacité à... Plus le temps passe, enchaîner ces 2-3 passes qui nous permettaient d'aller attaquer le but adverse. On a réussi à le faire par moment. Parfois, on a eu un peu de déchets, ce qui fait que le ballon est revenu assez vite. Mais par contre, les fois où on a réussi à le faire, on s'est procuré d'énormes situations. À un moment donné, je vous dis, on a raté tellement quasiment des face-à-face que j'avais la sensation qu'on pourrait laisser passer quelque chose d'intéressant. Mais les joueurs ont fait preuve de caractère. je trouve, de maîtrise des émotions aussi, parce qu'on n'a jamais été dans les excès, on n'a pas pris de carton, si je ne m'abuse. Ça, c'est quelque chose d'important, et ça montre encore une fois tous les progrès de l'équipe et de l'avancée de ce groupe.
Oui, à l'inverse, par exemple, du déplacement à Rodez, Guingamp a su tenir ses nerfs aussi. Alors bon, ils n'ont pas été poussés dans leur dernier retranchement par cette équipe nimoise non plus, mais...
Nîmes, ça peut être quand même un peu sanguin parfois.
Oui, sauf que là, il n'y a pas de... Ouais, il n'y avait pas de supporters. Les Gladiators sont en froid avec la direction, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont donc absents au stade, ce qui fait qu'il n'y a pas l'ambiance
qu'on peut connaître.
Ouais, 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 c'était très, c'était très triste, calme. Hein. Il n'y avait pas un bruit autour de nous. Heureusement qu'il y avait justement quelques commentateurs pour qu'il y ait un peu de bruit de temps en temps. On s'entend d'ailleurs les uns les autres, ça faisait bizarre parce que de temps en temps on s'entendait vraiment beaucoup, et bon ça a permis aussi à Guingamp, dans une ambiance plus tranquille peut-être aussi, d'aller chercher cette victoire avec un côté droit qui a très bien fonctionné en deuxième mi-temps, surtout parce que les deux buts sont venus de ce côté-là avec deux passes décisives du piston Maxime Civis, avec une relation naissante aussi avec Maxime Barthelmé, on l'a vu notamment sur le premier but. C'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné, même si en première mi-temps, ça a mis du temps à venir.
Ah oui, parce qu'il y a des centres qui sont partis très très loin, derrière, au-dessus du but. Je ne sais pas si c'était que le vent qui expliquait ça, mais c'est vrai que ça a été des actions beaucoup plus abouties en seconde période. Guingamp est allé plus loin dans les choses, et puis notamment le premier but. Ouais. Le club a mis la vidéo ce week-end, c'est une action où
tous les joueurs de champ ont touché le ballon.
Ouais. Et ça part du camp de Guingamp, quasiment de sa surface. Ils font tout le tour. Il faut dire aussi qu'ils ont été un peu aidés par l'apathie défensive de Nîmes, mais il fallait quand même arriver jusque-là. Oui, c'est intéressant et c'est un peu paradoxal parce que Civis, on avait l'impression qu'il avait été beaucoup plus décisif que ça. Il y a eu une sorte d'écran de fumée lorsqu'il a marqué ses deux premiers buts sur ses deux premiers matchs, je crois, à Roudourou. Mais c'est vrai, il est très intéressant comme contre-attaquant. Il est souvent très haut sur le terrain, mais il n'était pas décisif.
Non.
Et là, le voilà, c'est un match qui peut compter aussi. On a souvent besoin de repères, de déclics dans une équipe, dans la carrière d'un joueur. Eh bien, ce Nîmes Guingamp, Civis devra s'en souvenir.
C'est vrai. Et justement, Stéphane Dumont est revenu sur la prestation de son défenseur, double passeur décisif, à l'issue du match.
Ouais, en première période, j'étais un peu frustré, justement, de ce côté droit, parce qu'on avait... c'est vrai qu'on avait identifié ça, et je trouve que... Il y a eu un manque de justesse technique, un manque de... Il y a toujours eu une touche de trop, ou un ballon touché, un ballon par un... qui fait qu'on n'a jamais réussi en première période à combiner dans ce couloir. Par contre, en seconde période, on était un peu plus juste. On a réussi à trouver Maxime Civis lancé, et c'est totalement ce qu'on recherchait. Notamment, justement, avec l'apport de Max Barthelmé, gaucher, pied rentrant, qui fait que puisse combiner ce genre de choses avec Livo, avec Maxime Civis, c'est quelqu'un qui a besoin d'espace, qui a encore beaucoup à bosser dans le jeu combiné. Par contre, dès qu'il a de l'espace, il est intéressant. Et aujourd'hui, à l'image des centres qu'il a mis en première mi-temps, moyen, et on a réussi à rectifier le tir à la mi-temps et il délivre deux passes décisives et c'est très bien pour lui, mais il fallait les mettre aussi et les joueurs étaient présents.
Dumont avait déjà parlé de la relation Barthelmé-Civis au début de saison, lorsque Civis apparaissait. Ce qu'il faut rappeler dans le cas de Civis, c'est que ça a été, il me semble, la première recrue du mercato estival.
Je crois
si
bien.
Si je ne m'abuse.
Ouais.
Et il n'a pas joué avant le mois de septembre, je crois.
Parce qu'il était blessé.
Oui, blessé. Et puis il a souvent traîné. Il a été absent ces dernières semaines parce qu'il traînait cette blessure qui avait mis un peu de temps à.
Ouais,
puis
c'est quelque chose qu'il avait déjà au Red Star avant d'arriver en fait à Guingamp. Donc ça a mis du temps. Il a raté une partie de la préparation. Et c'est vrai qu'il est arrivé tardivement. Et ces derniers temps encore, il était éloigné un peu des terrains. D'ailleurs, Liv Volant avait joué un peu dans ce rôle de piste aussi pour le suppléer. Et c'est vrai que oui, cette relation entre Barthelmé et Civis, on l'avait vu alors de manière très éphémère, mais par exemple sur le Guingamp Rodez où il y a la super passe décisive de Barthelmé pour le but de Civis cette fois,
la talonnade,
et qui lui avait permis de marquer son deuxième but en Ligue 2. Voilà pour Maxime Civis. Mais ce n'est pas le seul progrès de l'équipe. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs que Stéphane Dumont a tenu à souligner sur sa conférence de presse, parce que globalement, c'est une équipe qui monte en puissance. Écoutez l'entraîneur.
Le plus important pour moi, c'est qu'on est dans une phase ascendante et qu'aujourd'hui, on voit les progrès de l'équipe. Et c'est ce dont je suis le plus satisfait, parce qu'on voit que on apprend de tout ce qui se passe dans un passé plus ou moins récent. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je le répète, on n'a que des... Sur un plan purement défensif, notamment les 5 de derrière, c'est leur première saison en Ligue 2. Ils viennent tous du National ou de la N2. Donc aujourd'hui, ce vécu commun, il est important de le vivre. Et vous avez raison, on pourrait penser qu'il y ait de la frustration. Mais aujourd'hui, je vous dis, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir tous les progrès, en fait. Et je pense que si on en est là, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on est passé par des moments un peu... par des scénarios un peu bizarres, qui fait que maintenant, on arrive à mieux les maîtriser.
Oui, des scénarios que Guingamp arrive à mieux maîtriser désormais, notamment à l'extérieur. Guingamp qui voyage un peu mieux aussi ces derniers temps. Il y a eu la victoire à Ajaccio. Bon, il y avait eu le nul malheureusement concédé à Rodez sur la fin, mais il y a encore cette victoire aussi à Nîmes. Il y a eu un très bon match à Sochaux malgré la défaite. C'est quand même une équipe qui prend forme. On en a parlé à Roudourou ces derniers temps, mais à l'extérieur, c'est le cas aussi.
Oui, c'est dommage. Et je crois que la question a été posée durant la conférence de presse. C'est dommage, ça vient un peu tard, parce qu'effectivement, oui. La spirale guingampaise, elle est quand même positive. Et bon, s'il y avait un peu moins de retard, on aurait peut-être pu rêver un peu plus. Mais voilà, ce qui est très important dans cette fin de saison, c'est de conserver cette dynamique, de pouvoir rajouter quelques pièces au puzzle, oui. Pour pouvoir, pourquoi pas, l'année prochaine, peut-être être à la même place au classement, mais avec un écart bien moindre par rapport au top 5. Et ça serait peut-être la suite logique de la construction brique par brique que ouais. Dumont est en train de faire depuis son arrivée cet été. Donc c'est vraiment positif. Et puis là, il y a quand même un match qui arrive samedi qui va attiser la curiosité. On espère qu'il y aura un maximum de monde au stade samedi à 15h pour le match contre Toulouse, qui est quasiment assuré de monter en Ligue 1. On a vu cette équipe de Guingamp poser énormément de problèmes au gros cette saison. Donc c'est vraiment un match... Que l'on a envie de voir, parce que équipe de Guingamp, elle est en progrès, elle joue contre la meilleure équipe de Ligue 2. Ça va bagarrer. Je pense qu'on va avoir un bon match, on l'espère. On espère aussi que Guingamp sera au niveau de la rencontre.
Ça va être intéressant.
Doute, ouais. vu ce qu'on a vu cette saison. Mais ouais, voilà, il y aura des challenges comme ça, celui de finir le plus haut possible, et puis là, de marquer les esprits. Hein, parce que si Guingamp arrive à faire quelque chose contre Toulouse, qui bat tout le monde en ce moment, eh bien, ça serait encore une fois un joli moment dans la saison des Rouges et Noirs.
Guingamp 8e, on le rappelle, au classement, égalité avec le 6e, puisque le 6e, le 7e et le 8e sont à égalité de points. 42 points pour ces trois clubs. Derrière Sochaux, hein, avec 54 points, 12 points d'écart. On a vraiment un championnat, un classement bien scindé, hein, dans le haut du classement. On sait que Toulouse va sans doute gagner 10 points d'avance sur le 2e. Le Paris Football Club, 56. 3e, Auxerre, 55. Ajaccio, 4e, 55. Sochaux qui revient bien avec deux victoires consécutives, 54. Sochaux qui revient dans le coup, hein, pour disputer les barrages et peut-être même la deuxième place. Ça va être très disputé entre Paris, Auxerre, Ajaccio et Sochaux. Attention, Ajaccio a un match en moins.
Ce soir, Ajaccio, à Nancy. Hein.
Ouais, qui pourrait retrouver sa seconde place. Ajaccio qui a aussi, je crois, l'hiver dernier, au mois de décembre, réussi à conquérir cette première place de ce championnat de Ligue 1. Ils ont été pendant plusieurs semaines leaders de ce championnat de Ligue 2. Ajaccio, il ne faut pas les oublier, Ajaccio. Hein. Ils jouent l'accession aussi, Ajaccio.
Ouais, bah, ils peuvent être deuxième en cas de victoire ce soir. Hein. S'ils gagnent à Nancy, ils sont deuxième devant le Paris FC. Donc oui, ils sont pleinement dans cette course à l'accession, les Ajacciens.
C'est très disputé, quoi. C'est vrai que
ce sera très serré à part Toulouse
voilà. Mais on a vraiment quatre clubs là, Paris FC, Auxerre, Ajaccio, Sochaux, bien malin qui pourrait dire qui finira deuxième et qui jouera les barrages. Ça va être très chaud, j'ai l'impression, jusqu'au bout. Dans le bas du classement pour Nancy, on va dire que c'est quasiment cuit. 7 points de retard sur Dunkerque. Par contre, pour Dunkerque, pour Quevilly et pour Grenoble, Rodez, ça se tient encore. Hein, ces quatre clubs, Rodez, Grenoble, Quevilly et Dunkerque, se tiennent en 3 points. C'est pas joué dans le bas du classement, si ce n'est sans doute pour Nancy.
Ouais, bah comme en Ligue 1, ce sont des équipes qui n'avancent pas du tout, hein, ou pas bien vite en tout cas. Rodez, tout ça, c'est beaucoup de matchs nuls, il y a assez peu de victoires ces derniers temps, et on les voit un petit peu patiner, et du coup personne n'arrive vraiment à s'en sortir dans ce bas de tableau de Ligue 2. Une dernière page de pub dans ce magazine des déchaînés du football, et cette fois on va basculer sur le foot amateur, sur le National 3 avec la GSI Pontivy vainqueur ce week-end. On aura avec nous le double buteur Antoine Ekin. Ok, à tout de suite. 100%.
Cyril Lignac, vous êtes chef cuisinier et pâtissier. Pourquoi avoir choisi Tefal comme ustensile de cuisine ?
Parce que j'ai besoin de produits robustes à utiliser quotidiennement et à garder longtemps. La majorité des poêles et casseroles Tefal vendues en France sont fabriquées en France. Et ça, c'est hyper important pour moi.
Merci beaucoup Cyril Lignac.
Jusqu'au 15 avril chez Intermarché, en échange de vos anciennes poêles, casseroles ou autocuiseurs, bénéficiez jusqu'à 50% de remise sur la gamme La Recyclée de Tefal, fabriquée en France.
Tout savoir sur les éco-gîtes avec Gîtes de France. Pour un court séjour, Nicolas a choisi un éco-gîte du réseau Gîtes de France. Il nous dit pourquoi dans un instant.
J'ai besoin d'un nouveau métier tourné vers les autres.
Moi, j'ai besoin d'un nouveau métier qui a du sens et dans lequel on croit en moi.
Et nous, on a besoin de vous. Aides-soignants, infirmiers, éducateurs spécialisés, accompagnants éducatifs et sociaux. Les métiers du soin et de l'accompagnement recrutent. Renseignez-vous sur solidarité-santé.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
À 20h20, c'est la dernière ligne droite du magazine des déchaînés du football avec le championnat amateur et donc le championnat de National 3. Notamment, on finira peut-être avec le championnat de National 2 et le championnat de National rapidement aussi.
Oui, on s'intéresse d'abord au championnat de National 3 avec donc cette victoire de la GSI Pontivy. Dans un instant avec nous, Antoine Eke, attaquant pontivien, auteur des deux buts ce week-end contre Dinan Léon. C'est Dinan qui avait ouvert le score, qui menait donc un but à zéro sur la pelouse du faubourg de Verdun. Et puis finalement les pontiviens ont totalement renversé la situation grâce à cet homme Antoine Eke qui a marqué alors d'abord à la 23e dans le jeu, puis sur penalty à la 72e pour répondre donc au but de Dupas du côté d'Inanna. Est-ce que nous avons avec nous Antoine Eke?
Oui, je crois.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Alors revenons d'abord sur ce match donc contre Dinan Léon, principalement avec cette victoire de 2-1, un match qui vous relance aussi dans le haut tableau après notamment la défaite à Lannion la semaine dernière.
Oui, c'est vrai qu'on savait que ça allait être un match important parce que pour nous on sortait sur même deux défaites d'affilée, dans celle à Lannion comme vous avez dit, et voilà, on était égalité avec Dinan avant ce match à 4 points de Milizac. Et on savait que c'était un match important si on voulait continuer à être dans la course à la montée. Donc au final, on a réussi à gagner. Et à la fin, on a su les résultats des autres équipes. Et ce qui nous a arrangé.
Ouais, parce que la Saint-Pierre de Milizac, ce week-end, a été tenue en échec, a même été battue, hein, tout simplement, par. Alors que je retrouve exactement le résultat, mais par.
2-0, ouais.
Ouais, exactement. Voilà, 2-0, le Stade Rennais B. Milizac est toujours en tête, 37 points. La GSI, 34 points, deuxième. Et derrière, on voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont à 33 points. Lannion, Rennes B, Brest B, Locminé. Comment vous le voyez, comment vous la voyez, cette fin de championnat, Antoine? Est-ce que c'est ça va être serré jusqu'au bout ou est-ce que ça peut se détacher à un moment donné?
Moi, je pense que ça va jouer vraiment jusqu'à la dernière journée. On sait que maintenant ça va être que des matchs importants comme des finales. Ça va être à nous de tout donner. Après nous on n'a plus trop la pression puisque c'est plus Milizac qui vont l'avoir sur cette fin de saison parce que nous on a juste à compter sur un faux pas de Milizac et à voir comment ça va se passer. Mais dès ce week-end déjà on a un autre gros match contre le derby, donc contre Locminé, qui sont juste derrière nous, donc à nous de faire le nécessaire pour essayer de les mettre à distance eux aussi. Donc on verra bien comment ça va se passer.
Oui, il y a Locminé, il y a la réserve du Stade Rennais aussi qui sera bientôt sur votre route. Ce sont ces équipes-là justement qui vous suivent, ce sont les matchs évidemment à gagner, mais est-ce que ce sont vraiment ceux-là qui vont conditionner la fin de la saison?
Non, je pense que tous les matchs vont être vraiment importants. Ça va être à nous de faire le nécessaire pour engranger le plus de points et on fera les comptes à la fin du championnat.
Quel adversaire vous a le plus impressionné, Antoine, sur ceux du haut de tableau notamment?
Pour l'instant, moi, c'est vraiment Locminé. Donc au match aller, on les avait joués à domicile à Pontivy. Je trouve que vraiment Locminé c'est vraiment une équipe très costaud et très solidaire entre eux, donc je pense que c'est vraiment l'équipe qui m'a le plus impressionné sur cette saison.
Et c'est vrai que le leader un peu surprise, la Saint-Pierre de Milizac, ça vous surprend justement de les voir à cette place là? C'est une équipe qu'on n'attendait pas du tout finalement.
C'est clair que ouais, on s'y attendait pas, mais bon pareil, on les a joués, on a fait une victoire, une défaite, mais voilà, ils ont de très fortes individualités, pardon. Et c'est vrai qu'au final, c'est une équipe, pareil, très soudée, très guerrière. Et ils méritent totalement leur place pour l'instant.
Alors personnellement, pour vous, c'est un doublé hein, ce week-end contre Dinan Léon, Antoine. Ça vous fait, je crois, en championnat 7 buts maintenant ?
C'est bien ça, ouais, c'est exactement
7 buts.
Ça. Ouais.
C'est une saison qui est quand même assez prolifique, quand même. 7 buts en 19 journées. Il reste encore 7 matchs à disputer. Il y a un petit objectif d'atteindre peut-être les 10 buts ?
Ouais, moi, c'est ce que je m'étais fixé en début de saison. C'était 11, voire 12 même. Donc voilà, j'ai loupé quelques matchs. Donc maintenant, il m'en reste 7 matchs pour en mettre au moins 4. Donc on va essayer de faire le nécessaire pour atteindre cet objectif.
Et peut-être celui de la montée, tant qu'à faire.
Et oui, pourquoi pas. C'est vrai que c'est un objectif du club. Ça fait déjà 2 ans qu'on n'y passe pas très loin, avec les saisons qui ont dû s'arrêter à cause du Covid. Donc là, cette année, je pense qu'on va aller au bout. Donc on va essayer de voir si on peut monter à la fin de la saison.
Justement, le Covid, vous en parliez. Est-ce que vous avez senti que ça vous a... Parce que l'année dernière, quand la saison a été arrêtée, vous étiez leader, invaincu de mémoire. Est-ce que ça vous a un petit peu freiné, ça, sur le début de saison aussi, de voir la spirale arrêter et de voir tout reprendre à zéro ?
Non, je pense pas que ça nous a freiné, parce qu'on s'est quand même bien préparé. Mais c'est vrai que quand on... Même la première saison du Covid, on est deuxième à 2 ou 3 points de Pladenec, alors qu'il nous est resté le match retour contre eux. La deuxième saison, on est leader, 6 victoires en 6 matchs. Et ça s'arrête aussi. C'est vrai que ça met un petit coup derrière la tête, mais après, là, sur cette saison, on n'est pas encore non plus détaché. Donc, on va tout faire pour essayer de monter. Ouais.
Et il y a encore le derby hein, qui vous attend sur la phase retour contre le Stade.
Ouais, le Stade Pontivien, ouais, ça va être un des derniers matchs du championnat, donc à domicile. Donc c'est un match que toute la ville de Pontivien attend. Hein, ouais. C'est là où il y a la plus grande forte influence, donc ça va être encore un bon match.
Un bon match qu'on suivra évidemment hein, de près en National 3. Merci beaucoup Antoine Eke d'être venu à notre micro ce soir.
Bah de rien, merci à vous.
Merci.
Merci,
et
bonsoir.
Bravo pour le doublé.
Et bravo.
Ouais.
Merci, bonsoir.
Un coup d'œil sur les résultats de National 3 avec les buteurs. Il nous reste 3 minutes dans ce magazine. Brest B n'a pas fait de détails. À Tréguin, il y avait 3-0 au bout de 19 minutes. Kyriou, Lebras et Camblan ont marqué. Leher puis Jouan aussi. 5-0 au final pour la réserve de Brest. Victoire très importante donc de Rennes B à la Milizac Saint-Pierre, le leader. 2-0, but de Domar Colino, le fils de l'ancien joueur de Ligue 2 et de Diakabi. Match nul dans le derby du 22 entre Saint-Brieuc-Bé et Lannion, 1 partout. Bawa pour Saint-Brieuc, Julien pour Lannion. Pontivy, on en a parlé, a battu Dinan Léon 2-1. Par contre, le stade pontivien a connu la bien mauvaise surprise du week-end en perdant 3-2 chez l'avant-dernier Guy Primessac qui a marqué 3 buts par Moukoko, Amada et Remont. Pontivy a marqué les premiers et derniers buts de ce match par Beaugendre et Lidjivena. Mais le stade pontivien qui fait une mauvaise opération dans la lutte pour le maintien. Nul 0-0 entre la TRN et Plouzané. Et puis Locminé a attendu la dernière minute et un but de Dramé pour gagner à Fougères sur le score de 2-1. Au classement, on le disait, la Milizac est toujours premier avec 37 points. 3 points d'avance sur la GSI Pontivy, 34. Un peloton à 33, Lannion, Rennes B, Brest B, Locminé, 7e, Dinan Léon, 31 points, 8e, Saint-Brieuc B, 30, 9e, Fougères, 27, 10e, Stade Pontivien, 23, 11e, Plouzané, 21, 12e, TRN, 20, 13e, Guy Primessac, 11 points, qui laisse très loin, Tréguin avec 3 points et moins 63 de différence de but. Mmh.
Un coup d'œil aussi sur le National parce que ça jouait ce week-end et fin de série pour le Stade Briochin qui s'est incliné cette fois alors chez un relégable à Bastia Borgo alors que Saint-Brieuc menait 1-0 et était en supériorité numérique. Expulsion de Julien Nziani à la 50e, ouverture du score des Griffons à la 68e par Gomis et puis au 73 et 82e Moula Idrissaba et Mons Baswamila ont offert la victoire à Bastia Borgo. Et puis Concarneau de son côté avait un gros match à négocier hein, face à Bourg-en-Bresse qui était quatrième avant le match. 1-1 score final. C'est Ezekian qui a ouvert le score pour les Bressans à la 6e et le buteur concarnois Fed El Koumisti a égalisé à la 40e minute. Concarneau reste ainsi 3e avec 50 points. C'est 3 de moins qu'Annecy qui est 2e.
Ça ne gagne plus hein, pour Concarneau. Hein.
Non, ça ne gagne plus décidément et c'est 8 points de moins que Laval qui est leader. Laval qui mène actuellement face à Sedan 3-0 dans le dernier match de cette 28e journée. Concarneau qui n'a plus qu'un point d'avance hein, sur le quatrième. Voilà, c'est un haut de tableau très, très resserré. Et les Briochins, eux, sont 8e avec 41 points et ont toujours 16 longueurs d'avance sur la zone rouge. Donc, eux, on le disait déjà la semaine dernière, le maintien maintenant, c'est dans la poche.
Voilà, il est presque 20h30 dans une dizaine de secondes. On va se quitter là. On se retrouve demain matin à 8h38, les différentes rubriques dans le Finistère, le Morbihan, les Côtes d'Armor. Et puis, le prochain match, ce sera dès vendredi. Hein. Attention, notez bien, vendredi soir, match à 21h. Match de championnat de Ligue 1, c'est Gaëtan qui sera...
Je serai au Moustoir.
Qui serait au Moustoir. C'est vous qui serez au Moustoir pour un match hyper important pour le maintien des Merlus, puisque les Merlus recevront l'AS Saint-Étienne. Merci messieurs.
Merci. Merci. Je me permets juste de faire un gros bisou à mes jumelles d'amour aujourd'hui, pour terminer l'émission.
Du côté de Saint-Malo.
Exactement.
Bonsoir.
On les embrasse.
Bonsoir.